Ceci n'est pas une pipe.
Ceci n'est pas une pipe.
Ceci n'est pas une pipe.
Écoutez, vous allez voir ce que vous allez voir.
Art contemporain, qu'est-ce que c'est pour moi ?
Étrange.
Art.
Espace, œuvre, expérience.
Subjectif.
Art, je pense à quoi ?
Ah mais je t'ai dit que j'y connaissais rien.
Exposition.
La découverte. Du rire parfois.
Photographie, art plastique, dessin, installation, performance.
Ça peut servir à faire passer un message.
Art avec des crayons, une gomme.
Eh bien, c'est ce qui nous aide à vivre en fait, et dont on a tous besoin.
Ceci n'est pas une pipe.
Bonjour et bienvenue dans Ceci n'est pas une pipe, l'émission qui parle d'art contemporain sur Jet FM 91.2. On se retrouve aujourd'hui pour notre rendez-vous de la rentrée. Et on vous emmène à la découverte de l'exposition Scopitone 2023, organisée par l'association Stéréolux. C'est la 21e édition du festival.
Scopitone.
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 Ce festival est dédié aux cultures électroniques et aux arts numériques. Réunis autour du thème de l'aller-retour, une douzaine d'œuvres d'artistes reconnus, émergents et émergentes, sont à découvrir en accès libre dans un tout nouvel espace d'exposition, aux Halles 1 et 2, situées sur l'île de Nantes, en face de l'École des Beaux-Arts. Un parcours imaginé en plusieurs volets, qui fera la part belle aux artistes explorateurs et exploratrices, au voyage et à la découverte du vivant. L'exposition présente le travail de Alistair MacLimon, et John Fass, Anne de Giaferi et Christian Delécluse, David Bowen, Émilie Brout et Maxime Marion, Magali Mobetti, Fuse, Gabriel Lester, Bérouse Nia et Dominique Pesson, Luminariste, Paul Dincombe, Sébastien Robert et Stéphanie Roland. L'exposition est à découvrir du 14 au 17 septembre, en semaine de 13h à 21h, le samedi de 11h à 21h et le dimanche de 11h à 19h, aux Halles 1 et 2, situé 5 allée Frida Kahlo à Nantes. Nous allons faire le tour des projets présentés en compagnie du commissaire de l'exposition, Mathieu Vabre, et de certains et certaines artistes. Allez, c'est parti, suivez-moi, vous allez voir ce que vous allez voir.
Donc moi je suis Eric Boistard, je suis directeur de Stéréolux. Stéréolux est un lieu de musique actuelle et d'art numérique qui est situé à 250 mètres d'ici et qui organise Scopitone. Voilà, Scopitone c'est un festival qui traite des arts numériques et des cultures électroniques, donc c'est pluridisciplinaire. Il y a évidemment un volet expo important, mais il y a aussi du spectacle vivant, il y a des ateliers, des workshops avec des artistes, il y a des conférences, des débats, voilà, c'est un festival multiforme qui essaie de rendre compte de l'instantané de la création numérique au moment où il se produit, c'est-à-dire maintenant en septembre 2023. Voilà. Nous, étant donné qu'on est un lieu permanent, ancré sur le territoire. On a évidemment un regard sur les artistes du territoire, mais aussi sur les populations. Donc Scopitone, c'est aussi des actions de médiation. On a une grosse activité de médiation pour permettre à la population de rentrer en contact avec les univers artistiques que vous allez découvrir. Et puis, nous avons des scolaires qui sont là toute la semaine pour faire une classe, on va dire, in situ, au contact des artistes, sur un atelier créatif autour du stop motion. Et puis, il y a tout un ensemble d'ateliers. Demain, on a un séminaire qu'on organise avec les festivals de Caen et de Rennes autour des mutations politiques, les projets politiques qui sont issus de la numérisation de la société, et puis aussi la politique du numérique, comment a-t-elle évolué depuis une vingtaine d'années, et elle a beaucoup évolué, comme vous le savez. Donc ça, c'était pour vous brosser un cadre général. Cette année, c'est la première fois qu'on peut bénéficier des installations que vous allez découvrir. Donc derrière vous, vous avez l'Open School Gallery de l'École des Beaux-Arts de Nantes. Et puis ici, c'est un lieu qui s'appelle les Halles 1 et 2, qui est un lieu un peu multi-service, où il y a à la fois des hébergements d'entreprises, de start-up, la possibilité pour des salles de réunion, et puis des espaces qui peuvent être dévolus à diverses activités. Et nous, on les utilise pour faire des expositions. Voilà. Donc c'est une année particulière, et puis c'est aussi particulier parce que je vais vous présenter le commissaire d'exposition de cette édition de Scopitone. Donc il s'agit de Mathieu Vabre. Voilà. Alors Mathieu n'est pas salarié de Stéréolux, Mathieu est le directeur artistique de la Biennale Chronique d'Aix-Marseille, qui a eu lieu donc il y a quelques mois. Il se trouve qu'on se connaît depuis beaucoup d'années, puisque nous faisons partie du même réseau d'acteurs qui s'appelle ACNUM, qui est un réseau national à la fois d'artistes, de festivals, de lieux et d'agents artistiques du numérique. Et donc, nous avons proposé à Mathieu cette année de venir assurer le commissariat de cette exposition. Donc, on a collaboré ensemble et j'espère que cette collaboration va vous plaire. Une première chose peut-être, on parle de Simopolé avant d'attaquer l'exposition. Oui. Alors, en fait, on a une œuvre en extérieur cette année qui est proposée dans le cadre d'une autre manifestation nantaise qui s'appelle la Non-Digital Week, qui est un événement, on va dire, à la fois de portée économique, avec beaucoup d'événements qui sont organisés par des entreprises, par des administrations, par des associations, et qui traitent du numérique au sens large. Et chaque année, depuis 10 ans, eh bien, nous coprogrammons une œuvre. Et cette année, nous avons choisi cette œuvre qui s'appelle Simopolé, et qui a été faite par un collectif lyonnais qui s'appelle Luménariste, et que vous avez peut-être vu si vous êtes allé à la Fête des Lumières l'an passé ou peut-être cet été à Metz, à Constellation, puisqu'elle a été créée en décembre dernier, donc elle est toute récente. C'est une œuvre qui donc s'appelle Simopolé, qui est la déesse grecque des tornades et des catastrophes naturelles, ce qui actuellement nous parle à tous, parce qu'on en a un peu subi depuis quelques temps. Marc, peut-être tu peux expliquer un petit peu le concept et ce que vous avez voulu montrer avec
Bien sûr, je parle au nom de Luminariste, donc c'est Benjamin Nem qui est le fondateur de l'agence et qui est designer lumière, et moi-même qui suis Marc Sicard, je suis designer produit. On travaille depuis 2 ans et demi sur différents thèmes, notamment on essaye de venir raconter des histoires dans l'espace public, que ce soit à travers des projections ou à travers des objets comme Simopolé et plusieurs installations passées et à venir. Ce qu'on veut raconter ici, en fait, c'est une espèce de constat de base qui est les constats du GIEC qui font état qu'il n'y aura pas forcément plus de tornades ou d'ouragans dans le futur. Par contre, au vu de l'accroissement, en fait, de la température des océans, les tempêtes, en fait, vont d'une part être plus puissantes, plus lentes et plus destructrices, et surtout vont venir sortir, en fait, de leur zone subtropicale normale d'intervention. Donc, ce qu'on voulait raconter, en fait, pour parler de dérèglement climatique et vraiment des effets très concrets qu'il peut avoir avec ce qui est en train de se passer, c'est amener, en fait, une tornade quasiment pour de vrai dans des endroits, en fait, où elles n'ont pas lieu, et l'amener à la fois, en fait, dans cette espèce de réalité physique, c'est-à-dire qu'on a fait une sorte de capture en 3D d'une tornade. On la monte et on l'amène en fait dans l'espace et on vient l'imposer en fait dans l'espace public. De la même façon qu'une tornade, en fait, quand elle arrive sur un territoire, ne demande pas pardon, merci, etc. Elle arrive et elle impose sa réalité. Donc l'idée, c'est que c'est un objet un peu monumental qui arrive et qui prend la place. C'est une boucle de 10 minutes donc commencera à jouer ce soir, qui fait pareil une narration, puisqu'on vient raconter une histoire, et qui part en fait des signaux d'alerte qu'il y a juste avant les tornades, des signaux, des bruits avant-coureurs, puis qui vient raconter en fait le passage d'une tornade à un endroit, c'est-à-dire le crescendo en puissance, l'œil du cyclone, le mur de puissance qui a juste après la sortie de l'œil du cyclone, et on finit en fait sur un tableau qui consiste à se demander en fait comment on change la société, comment on s'adapte, comment on devient plus résilient face à ce genre de challenge qui nous attend dans le futur, dans un futur très immédiat, voire immédiat. On a une volonté de création, de faire quelque chose qui soit aussi responsable, c'est-à-dire c'est un ensemble qui est recyclable à quasiment 95%. On est en aluminium, on est en acier, on essaie d'utiliser le moins de plastique possible. Le peu de plastique qu'on utilise, on réfléchit à le réemployer dans le futur. Il y a un paradoxe en fait à parler d'écologie et d'impact humain et à créer des choses en même temps. Le fait de créer des choses, en fait, crée un impact. Du coup, c'est la réflexion de savoir en fait comment est-ce qu'on qualifie cet impact de façon à pouvoir parler des choses, questionner notre futur, sans non plus être, irresponsable. Ça joue 4 fois par soir, il me semble, 4 ou 5 fois par soir pendant 4 soirs d'affilée. Et un dernier point, c'est une coproduction aussi, c'est une chose assez importante. Donc, Fête des Lumières, Lumière de Saint-Gervais, Genevalux et Constellation de Metz, avec le mécénat au départ de la CNR, qui est la compagnie de navigation du Rhône, qui a donné en fait le coup d'envoi sur le financement de cette œuvre-là. Donc on est très content de venir à Scopitone, puisque c'est la première date qu'on fait hors coproduction vraiment obligatoire. Donc on est très très heureux d'être là. Je vais passer la parole à Monsieur Vabre.
On va continuer du coup avec le démarrage des expositions. Donc on va commencer par l'école des Beaux-Arts. Donc vous pouvez me suivre, on va aller dans le bâtiment. Comme vous le disait Eric, en effet, donc les expositions se déroulent dans 2 espaces cette année pour l'édition donc 2023 de Scopitone. Donc ici, on se trouve dans la Galerie des Beaux-Arts. On ira voir tout à l'heure les Halles 1 et 2. Le point de départ de l'exposition a été une thématique voulue, travaillée par l'équipe de Stéréolux Copitone, donc sur la thématique de l'aller-retour. Cette année, donc, l'équipe a voulu travailler sur une éditorialisation autour de cette thématique. Donc, j'ai travaillé autour de cette thématique, vous allez le voir, en trois chapitres, avec donc, un premier chapitre autour des artistes explorateurs qui se trouvent ici, un deuxième chapitre que vous allez découvrir en face sur les voyages et la mobilité, et un troisième chapitre sur les carnets de voyage et les cabinets de curiosité au XXIe siècle. Donc avec l'idée de travailler sur des questions assez finalement actuelles, politiques, sociétales, sur la redéfinition justement de nos mobilités, de nos déplacements à l'heure des crises actuelles et du changement climatique. Donc vous allez voir beaucoup de travaux qui questionnent aussi ces choses-là, des artistes qui travaillent avec des outils contemporains et qui retranscrivent aussi leur expédition, comme ça va être le cas ici, à partir justement de l'outil technologique, et qui nous interrogent sur aussi le vivant et la façon de l'observer. Donc on détaillera ça un petit peu au fur et à mesure. Dans ce premier espace, il y a deux travaux, deux artistes qui présentent vraiment des corpus d'œuvres autour de deux expéditions qu'ils ont pu réaliser. Donc Sébastien Robert et Paul Duncombe, qui sont donc en vis-à-vis. Je vais leur laisser la parole, mais voilà, c'était l'idée de pouvoir travailler sur des expéditions d'artistes contemporains, donc à l'image des artistes explorateurs du 17e, du 15e, 17e siècle, mais donc avec des outils finalement très contemporains, avec des problématiques qui sont bien sûr tout à fait différentes, et qui viennent à leur manière travailler la question de l'archive, de la collection, et qui viennent parler peut-être, en tout cas c'est comme ça que aussi je peux lire, mais la question d'un monde qui est en train aussi de disparaître et donc sa préservation au travers notamment de certains outils. Donc on va commencer par Sébastien Robert autour d'un travail autour justement du territoire nordique et des aurores boréales.
Je me présente donc Sébastien Robert, je suis artiste interdisciplinaire et chercheur. Je suis originaire de Nantes mais je suis basé à La Haye aux Pays-Bas depuis quelques années. Et le projet de recherche que je présente ici aujourd'hui s'appelle The Lights Which Can Be Heard, donc les lumières qu'on peut entendre. C'est un projet de recherche qui a été effectué, qui a été, disons, lancé il y a 2 ans lors d'une résidence sur une île au nord de la Norvège qui s'appelle l'île d'Andøya. C'est pas très loin du Lofoten pour ceux qui connaissent. Et c'est un projet de recherche autour du son des aurores boréales. Le son des aurores boréales, alors pourquoi cette thématique? C'est que je m'intéressais, moi, dans un premier temps au peuple Sami, donc au peuple autochtone vivant en Laponie. J'avais lu qu'il y avait des écrits sur le fait que certaines personnes puissent entendre le son des aurores boréales. Donc j'ai fait de la recherche avant de partir sur place. Et il y a plusieurs théories comme qu'est-ce qu'est le son des aurores boréales, comment les gens peuvent percevoir le son des aurores boréales. C'est encore un sujet qui est débattu au sein de la communauté scientifique occidentale. Et moi, j'ai focalisé mon travail sur une théorie qui est la suivante. Les aurores boréales, quand elles sont suffisamment puissantes, elles produisent des ondes radio à très basse fréquence. Et il y aurait quelque chose dans la nature qui viendrait transformer ces ondes radio, donc des ondes électromagnétiques que l'on ne peut normalement pas entendre, en ondes acoustiques. Donc, si vous voyez là-bas, il y a une première photo qui montre en fait comment on travaille sur le terrain. Donc c'est une photo que j'ai prise avec dessus mon collaborateur Rob Stames, qui est un néerlandais retraité qui est basé là-bas depuis 15 ans et qui est passionné par ce sujet. Et on a 3 antennes qui permettent de capter les ondes radio liées aux aurores boréales. Donc je vais vous inviter à entrer dans ma pièce noire. Sont présentés en même temps. Donc ce que vous écoutez actuellement, ce que vous entendez, c'est mes enregistrements qui ont été faits du coup il y a 2 ans sur cette île d'Andøya au nord de la Norvège. Et c'est vraiment ce qu'on entend au casque avec une fois qu'on a ces antennes avec nous. On a ici d'abord 2 vidéos. La première que vous voyez derrière vous, qui sont en fait des témoignages de peuples autochtones aussi bien venant du Canada, de la Norvège, de la Russie. Les premiers témoignages datent de 1771 et les derniers de 2008. Et en fait, c'est en faisant de la recherche documentaire que je me suis rendu compte que toutes ces personnes, alors à des temps et à des lieux différents, parlent exactement de la même chose. Donc c'est vraiment des témoignages des populations autochtones, comment ils décrivent le son des aurores boréales avec leurs propres mots. Ça a été une première approche pour moi, un peu pour donner une voix à ces peuples autochtones vivant dans l'Arctique. La deuxième vidéo que vous voyez, c'est un spectrogramme ou un sonogramme. En fait, c'est une analyse visuelle du son, donc de mes enregistrements. À gauche, vous voyez les fréquences basses et à droite, les fréquences hautes. Et je ne sais pas s'il y a quelque chose qui vous choque dans un premier abord ou un truc qui visuellement vous interroge, mais on voit bien les traînées, les lignes directes droites et continues sur les côtés. À gauche, donc, les fréquences basses et toute la pollution liée à l'électricité, à Internet, aux communications terrestres. Et à droite, toutes les télécommunications militaires qui sont très présentes dans l'Arctique en raison du contexte géopolitique que l'on connaît. Donc l'OTAN, les Russes, etc. Et la communication notamment avec les sous-marins. Et en fait, ces lignes ont tendance au fil des années à grossir et prendre de plus en plus de place sur le spectrum, sur le sonogramme. Et en fait, ce qu'on voit au milieu, ce qui est un peu moins continu, c'est le son des aurores boréales que vous entendez actuellement dans vos oreilles. Et en fait, c'est pas que le son va disparaître en lui-même, mais il va disparaître de notre perception rapidement à cause de toute notre activité humaine. Donc à partir de là, j'ai voulu trouver un moyen, dans mon travail, j'essaie toujours de trouver un moyen de comment préserver ces sons qui sont en train de disparaître dans des médiums qui fassent à la fois sens pour les communautés locales et puis les géospécificités des endroits où je fais mes recherches. C'est la raison pour laquelle je me suis intéressé au quartz comme peut-être une explication de comment les gens peuvent entendre le son des aurores boréales dans la nature. Parce qu'il faut savoir que le quartz est énormément utilisé dans nos technologies actuelles, donc aussi bien dans nos montres, dans nos téléphones, dans nos portables, etc. Et c'est en fait ce qu'on appelle un transducer, donc ça transforme une énergie en une autre. Et dans beaucoup de communautés autochtones, pas forcément uniquement dans l'Arctique, mais à l'échelle mondiale, le quartz est considéré comme la mémoire visuelle et sonore d'un lieu. Et pour moi, je trouvais que c'était un aimant très symbolique et qui faisait bien le lien entre les cosmologies autochtones et la science. Vous avez ce cristal de quartz au milieu de la pièce qui vibre aussi bien avec le son et la lumière. C'est-à-dire que le son, les enregistrements que j'ai faits, est d'abord envoyé dans la lumière. L'intensité de la lumière change en fonction du volume sonore, vient traverser ce quartz et vient arriver derrière par là-bas dans ce miroir. Et de l'autre côté, en dessous du miroir, il y a une cellule photovoltaïque, donc comme un petit panneau solaire qui vient retraduire la lumière en son. C'est-à-dire que si je me mets devant, le son s'arrête, puisqu'en fait le son traverse la pièce avant d'arriver à nos oreilles. Et pour moi, c'était vraiment l'idée de pouvoir transformer le son en lumière et le retransformer en son. Et de jouer avec ces différentes perceptions, avec ces différentes énergies, et montrer qu'en fait, avec la technologie de nos jours, c'est très simple de passer d'une énergie à une autre, d'un domaine à l'autre. Je vous invite ensuite à découvrir la suite de l'exposition par ici. Du coup, les précédentes œuvres, il y avait un peu plusieurs approches. L'approche assez ethnographique avec ces témoignages, avec le son en plus, l'approche très scientifique avec ce sonogramme qui montre la pollution électromagnétique, et puis une approche un peu plus personnelle avec, et poétique avec ce quartz au milieu de la pièce. Et lors de ma recherche, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions en me disant, on parle tout le temps des aurores boréales, mais en fait, est-ce que les aurores boréales ne pourraient pas parler d'elles-mêmes? Et j'avais toujours en rêve un projet, c'était de faire jouer les aurores boréales d'une manière ou d'une autre sur un synthétiseur pour que ça crée de la musique. Et en fait, j'ai fait une collaboration donc avec Rob, la même personne que vous avez vue sur la première photo, qui lui a un studio depuis 15 ans au Lofoten. Et depuis 15 ans, il enregistre, mesure, archive, analyse toutes les données qui sont liées aux aurores boréales. C'est-à-dire que quand les aurores boréales apparaissent, ça vient changer plein mal de paramètres. Il y a des magnétomètres qui sont influencés, l'électricité sous terre, il y a des fréquences radio qui sont bouleversées. Et lui, il capte ça en temps réel. Il m'envoie tout ça en temps réel dans cet ordinateur et tout ça vient jouer en temps réel sur ce synthétiseur. Donc c'est une pièce sonore, c'est une pièce musicale qui est jouée en temps réel par les aurores boréales. Et même s'il y a toujours un petit peu d'activité électromagnétique, donc il y a toujours un peu de musique. Et notamment si vous avez la chance de revenir plus en fin de journée vers 19h, 20h, 21h, il y a des pics d'activité. On les voit aussi sur l'écran puisque ça visualise les données qui rentrent. Et la musique change vraiment en permanence. Donc c'est... Voilà.
Merci Sébastien. Merci. On va découvrir Paul Duncombe juste en face. Donc Paul qui est parti sur une expédition dans un territoire différent qui va vous expliquer puisque vous avez justement une première œuvre juste derrière lui qui contextualise assez bien sur une expédition.
C'est ça. Donc, et pour information, sur l'écran là-bas, vous avez une image sur deux qui présente ce projet-ci et l'autre qui présente le projet de Sébastien. Donc ça peut vous donner des détails sur les paysages sur lesquels on a travaillé respectivement. Donc le projet Manicouagan, c'est une expédition que j'ai conçue en 2021 pour aller explorer ce cratère d'impact au Canada, dans la forêt boréale, qui est un des plus mythiques sur Terre, mais qui est finalement très peu connu. Ce cratère a été formé il y a 214 millions d'années et il est associé par les scientifiques à la quatrième extinction du vivant. Et donc moi je suis parti là-bas dans cette optique de lier cette histoire primitive du site, cette extinction passée, et d'aller l'explorer avec des technologies de pointe contemporaines. Et tout ça en partenariat avec des universités, des scientifiques et des populations locales, parce que ce cratère se situe en territoire Innu. Et j'ai du coup proposé à d'autres personnalités de se joindre au projet. On est parti à une quinzaine. Moi, ce que je vous présente ici, c'est plus le résultat des protocoles plus scientifiques qu'on a réalisés sur place. Pour vous donner une idée de l'échelle, là, le cratère il fait 100 km de diamètre. On ne pouvait pas tout explorer, du coup les scientifiques avec qui j'ai travaillé m'ont donné des points assez précis à aller investiguer. Et c'est ce qui est présenté derrière. Donc... L'objectif principal était de se rendre sur le Mont Babel, qui est le ground zero de l'impact et qui est complètement sanctuarisé. Donc on a pu s'y rendre grâce à des autorisations du ministre et des protocoles assez militaires, on va dire, pour avoir le moins d'impact possible sur la faune et la flore. Et une fois sur cette montagne, on a déployé les différents outils qui nous avaient été mis à disposition, qui avait à la fois pour vocation de produire cette exposition et à la fois qui ont été exploités par les universités partenaires dans le cadre de formation et dans un cadre plus général de sensibilisation à l'environnement, au réchauffement climatique, puisque le cratère est un des emblèmes de l'UNESCO aujourd'hui. J'ai voulu en fait donner à voir ce cratère et certaines de ses spécificités en fait du point de vue des machines, du point de vue des outils numériques. Donc ici vous avez différentes vidéos qui s'enchaînent, il y en a qui ont été réalisées avec des drones, d'autres qui ont été réalisées avec des lidars qui sont des caméras 3D en gros. Du coup les images lidar que j'ai obtenues sur place depuis que je suis revenu, j'ai joué à les manipuler, à essayer de représenter un peu ce que j'avais en tête par rapport à cette explosion initiale. De travailler un peu ces relevés qui sont très très précis, c'est des coordonnées de pixels, c'est des tableurs en fait à la base. Et d'essayer de rendre ça un petit peu abstrait, donc il y a des parties de la vidéo, vous allez voir ça se dissout, ça devient très impressionniste. Les paysages disparaissent, s'effacent et réapparaissent. Et donc la suite de ce projet, c'est de retourner au Québec pour collaborer avec les autres créateurs avec qui je suis parti, donc un écrivain, une poète, une plongeuse et un documentariste, pour proposer une version un peu moins scientifique, mais plus culturelle, plus québécoise, et qui tournera au Québec, notamment dans le Grand Nord, là où le projet a été développé. Et les vidéos qui sont là-bas, qui sont assez uniques aussi, puisque en fait ce sont les reliefs sous-marins du cratère qu'on a pu enregistrer avec un sonar, parce qu'il y a une grande partie de l'expédition qui s'est faite en kayak pour rejoindre cette montagne. Donc il y a très très peu d'images déjà du cratère, il y en a encore moins de ce qui se passe sous l'eau, notamment parce que à la suite de la construction d'un barrage dans les années 70, l'eau est montée de 150 mètres et ça a ennoyé en fait d'immenses forêts qu'on peut voir sur les images dans le creux des reliefs, ainsi qu'une grande partie de l'héritage Innu, puisqu'il se déplaçait le long des rivières et que quand l'eau est montée, tout ça a disparu. Donc en l'occurrence, ça c'est un projet sonore, puisque le logiciel que j'ai créé permet de lire en fait ces reliefs sous-marins comme une partition, sans aucune interprétation. Donc on va dire que c'est le son du cratère. La petite maquette que vous avez derrière vous, c'est une représentation du Mont Babel en 3D qui a été faite en partenariat avec la société qui m'a fourni les images satellites. qui représente ce Mont Babel, donc qui est pas juste une montagne, c'est un vrai massif montagneux. Et ensuite là-bas, vous avez des tirages de souches d'arbres en fait qui m'ont interpellé parce que le paysage là-bas, c'est des chablis, donc c'est des arbres enchevêtrés les uns dans les autres depuis des siècles, qui ont jamais été exploités, entretenis, rien.
Vous parlez de protocole militaire pour pas augmenter l'UAS. Quel genre de protocole, par exemple?
Ça s'appelle le Leave No Trace. Donc, comme ça se traduit, ne laisser aucune trace. Donc, ça concerne à peu près toutes sortes de traces qu'un humain peut laisser. Pour un exemple, l'eau qui sert à se laver sert aussi à faire sa vaisselle et à se laver les dents. Et puis après, il faut la boire. Je vous remercie.
Merci. Merci Paul. Je vous invite à me suivre.
Vous êtes toujours dans Ceci n'est pas une pipe, l'émission qui vous parle d'art contemporain, sur Jet FM 91.2. On est en train de visiter l'exposition Scopitone 2023, festival dédié aux cultures électroniques et aux arts numériques. On découvre le travail des artistes qui participent à l'exposition. Alistair MacLimon et John Fass, Anne de Jaffery et Christian Delécluse, David Bowen, Émilie Brout et Maxime Marion, Magali Mobetti, Fuse, Gabriel Lester, Golnaz Berouznia et Dominique Pesson, Luminariste, Paul Dincombe, Sébastien Robert et Stéphanie Roland. Et avec Mathieu Vabre, commissaire de l'exposition. Allez, on continue.
Là on va donc visiter la suite de l'exposition dans le bâtiment, dans le deuxième bâtiment, donc les halles 1 et 2. Donc on termine sur le chapitre, comme je vous disais, des artistes explorateurs, là avec une autre figure de l'exploration, une exploration plus intime et personnelle, avec le travail de Magali Mobetti, qui va donc vous expliquer son œuvre.
Bonjour tout le monde, je m'appelle Magali Mobetti, je suis artiste multimédia. J'ai réalisé en Baté à Danco dans le cadre de mes années de résidence au Frénois en 2021. C'est un arbre autour duquel on va pouvoir tourner avec une application en réalité augmentée. Donc je vais essayer de faire en sorte que tout le monde puisse voir un petit peu, mais sous cet arbre en fait on a des personnes qui sont assises et on va pouvoir donc aller de personne en personne, entendre les discussions que j'ai pu avoir avec elles il y a 2 ans en Guadeloupe. Donc ce sont tous des membres de ma famille. L'idée en fait c'était de reconstruire l'histoire de nos ancêtres que j'ai retrouvée grâce à la banque de données d'Enchoucage du CM98. En fait c'est une banque de données en ligne où on peut, si on vient de la Martinique ou de Guadeloupe, taper son nom de famille et voir qui en fait étaient les personnes qui ont reçu ce nom de famille en premier à l'abolition de l'esclavage et donc retracer comme ça sa généalogie. Moi j'ai trouvé ces personnes-là grâce à ce site et ce que je voulais en fait c'était reconstruire une histoire parce que je voulais en savoir un petit peu plus, sachant que la dernière personne qui a vécu l'esclavage dans ma lignée était l'arrière-grand-père de mon père. Donc les générations sont beaucoup plus courtes que ce qu'on peut imaginer dans l'imaginaire collectif. Et donc il y avait des chances que mon père, de par ses grands-parents, ait pu avoir des éléments concernant qui ils étaient. Donc j'ai réalisé la première interview avec mon père, qui m'a appris en fait qu'il y avait un cimetière, quand il était plus jeune, sur le terrain familial, dont tout le monde s'est occupé, mais personne en fait n'osait demander à qui appartenaient les tombes parce que il y avait toute cette culture en fait un peu tabou de ne pas trop poser de questions aux parents, surtout quand ça concerne en fait l'esclavage. Donc tout le monde s'est occupé de ce cimetière quand ils étaient jeunes. Ils refaisaient les tombes chaque année, notamment pour la Toussaint. C'est quelque chose qu'on fait par tradition ici aussi d'ailleurs, où on s'occupe des tombes, on nettoie, etc. Donc il m'apprend qu'il y a ce cimetière et qu'en effet il est incapable de me dire qui étaient les personnes enterrées. Donc on va pouvoir faire le tour de l'arbre, aller de personne en personne pour à la fois reconstruire l'histoire de mes ancêtres et aussi savoir qui est enterré dans ce jardin et pourquoi personne n'a jamais voulu dire, en tout cas décliner leur identité. L'arbre, il a plusieurs significations. La première, évidemment, c'est celle de l'arbre généalogique. Donc j'aime à penser que j'ai fait un arbre généalogique augmenté car j'ai la mémoire des corps de chaque personne que j'ai interrogée grâce à ces scans. On peut les voir d'ailleurs aussi sur les feuilles de l'arbre, ce sont du coup les visages de chaque personne que j'ai interrogée. Et cet arbre, il fait aussi référence à l'arbre de l'oubli, qui est un arbre qui aurait existé. On a une reproduction du coup sur le mémorial qui s'appelle la route de l'esclavage au Bénin. Et c'est un arbre autour duquel les esclaves auraient dû, selon l'imaginaire, autour duquel ils auraient dû oublier d'où ils venaient, leurs racines et qui ils étaient. Mais que ce rituel ou non ait existé, c'est un fait. Si on prend des personnes et qu'on les déplace d'un continent à un autre, ils sont obligés d'abandonner énormément de choses. Donc là, on fait le tour de l'arbre de manière inconsciente quelque part en allant de personne en personne. Et donc on fait des tours qui permettent quelque part de redonner racine, de redonner une identité, certes à cette histoire-là et aussi aux membres de ma famille. Vous avez également des tibans, donc ce sont les petites assises sur lesquelles tout le monde est assis. Ça, on retrouve ça dans chaque maison, en général dans la Caraïbe, et ce sont des reproductions de ceux que j'ai trouvés dans les maisons de chaque personne que j'ai visitée. Il y a des documents d'archives que mon père a créés il y a 30 ans, je n'étais pas encore née, qu'on retrouve dans l'installation. Je vais vous inviter à venir par là avec moi si vous voulez. Il y a 30 ans, au moment où en fait, des maisons ont été construites sur le terrain où il y avait le cimetière. Donc c'est aussi le moment où on a décidé, quelque part, d'oublier cette histoire-là et d'encore plus la terre. Et moi, je reviens 30 ans plus tard, poser plein de questions, embêter tout le monde. Mais ils ont été gentils avec moi. Ils ont cette apparence fantomatique parce que la technologie, en fait, c'est un peu ça, la réalité augmentée. C'est, on fait apparaître des choses qui ne sont pas là. Donc je voulais vraiment appuyer ce côté de cette technologie. Et aussi, je considère que nous sommes tous des futurs ancêtres. Donc c'était aussi les replacer dans ce cadre-là, ce qui se vérifie parce que là, vous avez toutes les personnes que j'ai interrogées, il y en a 8 en tout. Et depuis, il y a une personne qui est décédée, donc j'ai un véritable fantôme au final autour de cet arbre. Et c'est aussi l'idée de recréer des archives, de comment est-ce qu'avec les technologies d'aujourd'hui, on recrée des archives. Parce qu'on a eu le cas, par exemple, avec juste la photographie, c'était une nouvelle manière de créer une archive. Et donc là, avec des scans 3D, c'est aussi une nouvelle manière de conserver de l'information sur des personnes. Et voilà.
Merci.
Merci pour votre écoute.
Merci Magali.
Il y a une armure de ces gens-là, c'est formidable.
Il nous avait dit il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler, il ne faut pas tricher. Et quand il parle,
alors je travaille toujours seul, soit baptême seul, seul à l'école, seul, tout seul, moi, pour toi, mariage seul.
C'était quand il parlait, pardon, il était interdit de dire « mais papa, non, il n'y a pas de mais ». J'ai dit ça, c'est ça.
Découvrir l'œuvre de David Bowen qui introduit un nouveau chapitre sur les voyages et les mobilités avec un projet qui s'appelle Telepresent Water. Et David Bowen, en anglais, je lui laisse présenter son
sorry.
Projet.
Yes. Only English, sorry. Yes, hi, I'm David. This is my piece, Telepresent Water, here. So we have this, this kinetic sculpture, this structure in the gallery space. There's in my country, we have NOAA. It's called National Oceanographic and Atmospheric Administration, and they have buoys all over the world on the surface of the oceans. And each buoy has its own website, and from the website, you can go there and find out what the water temperature is, what the wind speed, wind direction. But you can also get wave height and wave period data. And so, the system here is pulling data from a buoy that is in the middle of the Pacific Ocean. It's about 500 kilometers northwest of Honolulu, Hawaii, so it's very central Pacific. And that is getting the current wave height and wave period data from that buoy. And the height is mapped to the amount of distance the motor moves up and down, and the period is then mapped to the delay between each motor movement. So that creates the peak and the trough of the wave. So essentially this is what's happening in the middle of the Pacific Ocean, recreated in kinetic form in the gallery space. And it'll change day to day. It'll hopefully be different tomorrow. It's been pretty calm. It's scaled, it's not one to one. So to give you an idea of the scale, this is about, the last time I looked, it was about 6 meters, the wave swell. So you can see it's obviously quite a bit smaller than that, but it does get as high as, you know, 17 meters. There are sometimes some really big waves. So maybe tomorrow there will be a storm and it'll be doing something completely different. So that's my piece, yes.
Donc, merci David, thanks.
Merci.
Comme je vous le disais, c'est une première pièce qui introduit le travail autour du voyage de manière symbolique, en tout cas dans le récit qu'on a voulu raconter, puisque On est face à la présence de l'océan, de la mer, avec tout l'imaginaire que ça peut renvoyer dans le passé aussi, avec les explorations passées, mais aussi les questions, vous allez voir, qui sont traitées aussi plus loin dans l'exposition actuelle, que l'on connaît tous, notamment avec la question des migrations. C'est une œuvre aussi qui symbolise, au-delà de cet imaginaire autour de la mer, l'introduction finalement de la téléprésence, puisque c'est une œuvre donc en téléprésence, en temps réel, dit-on, donc qui connecte deux espaces distincts et qui est vraiment avec l'avènement d'Internet et des télécommunications, qui est cette faculté en fait qu'ont eu les technologies en fait de nous relier, de nous connecter à tout point et à toute distance. Donc c'est aussi un changement sociétal qui est arrivé, très important, et qui a forcément modifié notre façon de repenser l'espace et nos mobilités et nos voyages. Donc elle est à la fois très poétique et à la fois très riche de sens pour introduire cette question aussi du voyage que l'on va continuer dans les espaces de la galerie. Des pièces plus intimes. Là, on est devant une œuvre de Émilie Brou et Maxime Marion, qui ne sont pas là, mais qui sont là avec nous par le biais de leurs photos, puisque ces photos sont des autoportraits. Alors, vous allez me dire pourtant que les visages sont tous bien différents. Mais en fait, le principe de leur œuvre, qui s'appelle Ghost of Your Souvenirs, c'est qu'en fait, ils se sont... vous les retrouvez un peu à chaque fois en arrière-plan de ces photos. Donc vous avez Émilie Brou qui est avec nous, et ici, qu'on retrouve ici et ici, et Maxime qu'on retrouve aussi à plusieurs endroits. C'est de la photobombe, ce qu'on appelle la photobombe. C'est sur un principe très humoristique en fait, et très aussi critique. Ces deux artistes se sont placés à l'arrière-plan vraiment, ce n'est pas du photomontage, dans des photos prises par des touristes. Et avec un ordinateur et un moteur de recherche, ils ont retrouvé en fait, sur les posts Instagram, avec le jour et l'heure de la prise de la photo, le monument évidemment, ils ont retrouvé leur présence dans ces postes-là et en ont fait en fait finalement l'œuvre que vous avez devant vous. C'est une œuvre là qui nous parle finalement aussi de nos voyages, mais de façon de déplacements de masse touristiques, avec justement dans ce que je vous racontais sur aujourd'hui les télécommunications et la façon dont on se déplace aujourd'hui dans le monde. Peut-être aussi qu'il nous raconte l'uniformisation, à la fois de nos photos, tous, je suis sûr que vous reconnaîtrez, nous avons tous fait des photos devant des monuments historiques comme ceci. Donc l'uniformisation et puis le tourisme de masse finalement aussi qui s'est développé. On mêle dans les expositions des formats assez classiques, mais qui viennent questionner aujourd'hui nos changements, notamment liés au numérique. Et justement en face, lui répond Stéphanie Roland.
Bienvenue.
Voilà, je vous invite à vous retourner devant l'œuvre Science Fiction de Postcard. Et puis, donc, je te laisse la parole pour expliquer le principe de cette œuvre.
Bienvenue. Donc, moi, c'est Stéphanie Roland. Je suis une artiste visuelle belge et je suis basée à Bruxelles. Et je fais des films aussi. Donc, je travaille entre art visuel et film autour de notions, autour de monde invisible, autour d'entités inconnues. De géographie imaginaire. Et du coup, ben voilà, donc c'est science fiction postcard. Pour celle-ci, je travaillais avec des géographes qui font des prédictions autour du réchauffement climatique. Et donc, j'ai vu à quelle période certaines îles, par exemple, seraient submergées. Et du coup, on a réalisé tout un index d'îles. Et je vais vous montrer tout de suite. Donc ça, ce sont les cartes postales que les gens peuvent... rapproché ici d'un écran qui est réchauffant, un peu comme un écran noir, un écran de télévision noir, mais qui serait réchauffant. Et donc l'île, elle se révèle comme ça, grâce à la chaleur, ça peut aussi être la chaleur humaine, le toucher, elle se révèle. Et si on la retourne ici, on peut voir, il y a un message du futur qui nous est envoyé. Donc il y a quelqu'un dans un futur très lointain. Ici, par exemple, c'est 3267. Encore, c'est pas un des plus lointains. Donc, il nous envoie un message que cette île, donc Art Island, elle va disparaître au 26e siècle. Donc, c'est un jeu autour du temps, de la science-fiction, à travers ces cartes postales aussi, un peu un jeu autour du tourisme aussi. Un peu, c'est pour ça que je trouve ça beau, le lien qui a été fait ici avec l'autre pièce est autour de ce tourisme, un peu cette apparition, cette disparition, toute cette notion d'île, d'insularité, d'isolement. C'est une pièce aussi que le public puisse toucher, donc que ce soit différent de cette injonction que le public a toujours de ne pas toucher dans un musée, qu'ici on ait quelque chose de plus interactif, qu'il puisse toucher, avec finalement quelque chose qui n'est pas lié non plus à une tablette, mais qui est lié à un autre type d'expérience, et qui ne peut pas emporter, donc juste dont il peut se souvenir, quoi. Donc avoir cette petite expérience d'apparition comme ça qui revient. Et puis ensuite, au fur et à mesure, les quatre deviennent noirs pour le dispositif.
Merci.
Bonne visite.
On va continuer juste en face, puisque comme je vous le disais, la question du voyage, c'est aussi, hormis la question du voyage touristique, c'est parfois la question du voyage subi, des déplacements subis. Donc en effet, toujours la question des mobilités. Là, je vous présente Anne de Jaffery et Christian Delécluse, qui sont les co-auteurs de cette pièce produite par Dark Forea, avec une présentation et une scénographie spécifique inédite pour Nantes. Et peut-être que je vous laisse présenter la pièce et votre travail.
Ben, honneur aux femmes, je laisse Anne démarrer.
Eh ben, bonjour. Cargo, c'est une traversée sur les migrations, mais avec un point de vue décalé, justement, sur la migration, où on a souhaité regarder avant tout, intégrer la migration dans la mobilité, dans les mobilités, ce qu'on appelle les mobilités sociales. Et on a travaillé pour écrire ces récits qui sont devenus des récits fictionnels. On a travaillé avec des chercheurs en sciences sociales et qui nous ont apporté toute la matière et qu'ensuite on a réécrit de manière à construire des figures, ce qu'on a appelé des figures de la mobilité fictionnelles sur différentes... sur différents déplacements contemporains aujourd'hui. Alors, il y en a certains qui sont assez connus, d'autres beaucoup moins, comme par exemple le déplacement pour la santé. C'est un déplacement sud-sud qui est moins connu. On a travaillé avec, d'un point de vue sonore, on a travaillé avec Radio France et puis avec le laboratoire de mécanique et d'acoustique, qui est un laboratoire de recherche à Marseille. Et l'installation en fait est sous deux formes. Il y a une forme interactive. Là, on a travaillé aussi avec le collectif MU à Paris. Et puis là, c'est une forme plus simple qui est celle en binaural. Donc, c'est-à-dire que vous avez un son immersif mais au casque. Et donc vous avez 14 personnages et 12 nationalités différentes qui sont jouées par des non-comédiens, des comédiens non professionnels, puisque l'idée c'était que le personnage puisse s'exprimer dans sa langue. Et évidemment, on s'est confronté à pour certaines nationalités, à la difficulté de trouver des comédiens professionnels, mais l'idée c'était de s'emparer de ces histoires et surtout de nous les restituer de manière empathique et émotionnelle.
Ouais, et puis au-delà de la narration, il y a aussi la restitution d'un paysage sonore qui est associé aux figures. Donc on a été aussi in situ prendre des sons immersifs avec plusieurs microphones qui nous permettaient de restituer un espace sonore. Et puis il y a tout un travail ensuite de composition. Mais on est donc dans une fiction, mais qui est une fiction basée sur le réel. Donc on a vraiment travaillé avec les chercheurs. On dit les chercheurs parce qu'il y en a effectivement beaucoup. Hein. On a collaboré avec plus d'une vingtaine de chercheurs parce qu'il y a au moins un chercheur par figure. Donc on a 6 figures. Pour certaines figures, on a travaillé avec des groupes de chercheurs où là, c'était 5 ou 6. Donc c'est difficile de tous les nommer, hein, mais ça recouvre différents labos de recherche, notamment ICE Migration à Paris, des gens de l'IRD. C'était un long travail qui s'est étalé sur 4 ans. Tout un travail d'abord de rencontre avec les chercheurs, ensuite un travail d'écriture qui est avec plusieurs allers-retours parce qu'on s'est nourri de leur travail de recherche pour d'abord décider des différentes figures et puis ensuite, une fois les figures écrites, on en a discuté avec eux pour que ce soit crédible du point de vue du réel, du terrain. Et puis ensuite, il y a tout le travail de construction de la fiction, donc avec des comédiens. Et donc pour certains, le français était un peu difficile. Donc il y a eu tout un travail de montage sonore pour redonner du rythme au récit. Et puis après, sur le récit, c'est construit tout l'habillage sonore en son spatialisé, donc dans des nouveaux formats d'immersion, donc format ambisonique, qui permet d'avoir du son dans toutes les directions. Hein, c'est sur 19 canaux audio, et puis encodé donc en binaural pour une écoute au casque hein, qui restitue justement la spatialité des sons.
Vous avez nommé les six figures ou pas?
Non, c'est vrai. Donc il y a ici la Negafa, qui est une figure un peu particulière du Maroc. Et c'est maître de cérémonie, c'est femme, maître de cérémonie de mariage, qui, avec l'importance de la diaspora marocaine, avec la mondialisation, ont commencé à se déplacer en fait dans le monde, aussi bien pour leur fourniture que pour aussi évidemment faire des mariages en dehors du Maroc. Et puis la figure du religieux, donc ce sont des personnes qui, par rapport à leur religion, se déplacent. Donc ils sont prêtres, imams, donc ils sont amenés à se déplacer dans le monde ou dans le bassin méditerranéen. La figure de l'étudiant, donc qui est une figure effectivement qu'on connaît, mais qui aborde là toutes les problématiques, les enjeux contemporains des étudiants aujourd'hui. Et puis la figure de l'absent, qui elle est sur vraiment la mémoire en fait de à la fois des personnes qui font un parcours, qui ont un parcours migratoire, et des objets aussi, et donc qui restent. Puis l'errance, où là on est sur des personnes en déplacement, en mobilité à l'intérieur d'un pays, ou en tout cas à proximité. C'est l'exemple d'une Palestinienne qui est dans les camps palestiniens au Liban, et un Syrien qui lui arrive au Liban, mais se déplace aussi bien à l'intérieur du pays qu'à proximité, comme par exemple en Égypte. Puis enfin, la dernière figure, c'est la figure donc du patient. Et là, ce sont deux femmes qui viennent en Tunisie, deux femmes. Donc c'est une circulation sud-sud, et qui viennent se faire soigner en Tunisie, pays qui a développé un pôle de santé aujourd'hui, en particulier pour la natalité, pour la fécondité. Et donc, en l'occurrence, les femmes algériennes qui ne peuvent pas faire de fécondation in vitro, pour tout un tas de raisons aussi bien culturelles qu'économiques, vont en Tunisie, par exemple, se faire soigner. Voilà. Donc, ces six figures, il y en aurait évidemment... beaucoup encore à écrire et à raconter. Ouais. Ouais.
Parce que l'idée, c'était vraiment pour nous de déconstruire la figure du migrant telle qu'elle est présentée dans les médias, donc qui est très chargée, très connotée, et positivement et négativement. Et en fait, on a essayé de montrer derrière ce terme de migrant toutes les différentes réalités qui peuvent exister. Donc, pour essayer justement de sortir de cette espèce de catégorie là qui s'est construite petit à petit. Donc, on l'a décomposé en une figure kaléidoscopique, hein, parce que finalement, là, on n'a que six figures, mais une même personne pourrait très bien correspondre à plusieurs catégories. On a des catégories beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus larges, et puis qui sont vraiment... qui rendent compte d'une expérience. Du coup, c'est raconté à la première personne, au jeu. Et puis, il y a tout cet habillage sonore qui, au-delà du récit, amène un univers. Il y a un espace, que ce soit l'espace musical lié au mariage marocain, évidemment, le chant, qui a beaucoup de présence là, dans la religion évangélique, qui est aussi très présent. Enfin, donc, tout l'environnement sonore qui participe aussi à faire voyager le spectateur dans l'univers de la personne dont on raconte le récit.
Merci Anne, merci.
Des Français et des Algériens, des Tunisiens et même des couples mixtes. Le mariage, c'est une mise en spectacle sans limite, un éblouissement, une exposition de soi.
Quand j'étais petite, je voulais toujours porter de belles robes. Je la dessinais moi-même et ma mère me la faisait coudre. C'est comme ça que j'ai commencé. Dites haka. Ouvrière à chef d'entreprise. Puis avec mes sœurs, on a fait des robes de location. Ma grand-mère nous a regardées. Vous allez aller loin, les filles. J'étais si gâte, Léna. Reste-moi chez Obaïd.
Donc là, vous êtes devant Gabriel Ester, est un artiste hollandais qui est plasticien et qui vient du cinéma. Et donc, il a travaillé depuis quelques années sur ses Conveyor Belt Series, donc des séries autour de ses tapis roulants. Qui lui permettait pour lui de faire du cinéma low-tech, donc de vraiment travailler l'image en mouvement, le cinétisme le plus primaire en fait de l'origine du cinéma, même voire du pré-cinéma, avec ces tapis roulants sur lesquels il recrée à chaque fois un monde différent. Avec là, vous avez trois compositions, trois tableaux. Avec un univers plus agricole, un univers plus floral, et après un univers plus humain et urbain, avec des architectures. Le principe, c'est les lumières qui éclairent ces formes et ces ombres en mouvement, avec un travail très sculptural aussi, puisque les lumières à chaque fois sont différentes sur chaque mur et créent des contrastes et des formes aussi différentes. Et vous en avez une plus précise qui crée un contraste assez fort. Donc on est là aussi sur une œuvre très low-tech. Pour clôturer la question du voyage et de la mobilité, c'était vraiment déjà le tapis roulant qui symbolise aussi l'ère industrielle de notre société actuelle. Le déplacement dans le paysage aussi, que l'on peut faire en étant soi-même touriste ou voyageur. Et puis la question que ça peut poser sur par rapport à l'aller-retour, cette thématique, est-ce que en se voyageant, est-ce qu'on on revient au même endroit, revient-on vraiment le même ou différent?
Dans la salle de l'autre côté, il y a un genre de tapis roulant avec un...
Ah oui, vous êtes là,
ouais. Ouais, ouais, c'est là, c'est vraiment très...
C'est un voyage.
Très, très poétique avec l'utilisation de lumière et cette idée que... Enfin, surtout le tapis roulant avec les bâtiments qui basculent sur le bout du monde avec... Ouais, toutes ces personnes un peu fous qui pensent que la Terre est plate. Voilà, ça me fait penser à ça.
Ah oui, c'est une pensée plate,
c'est marrant. Oui, voilà, flat earth, oui, exactement. Non, ici, c'est intéressant, je n'ai pas le temps de tout lire, c'est très petit. Et,
oui.
Voilà, donc, mais bon.
C'est la première fois que vous venez à des expositions comme ça?
Non, depuis, ça fait 4 ans environ.
Ok.
Quand on est arrivé à Nantes, voilà. Oui, on est habitué. Ouais. Donc, mais on est content que c'est déjà dans un nouveau lieu et non, c'est très bien.
Super. Bonne soirée.
Merci. Merci.
Donc, à partir d'ici et dans les espaces qui clôturent l'exposition, on rentre dans le troisième chapitre, donc le carnet de voyage et les cabinets de curiosité du 21e siècle. Où là, vous avez une série d'artistes qui travaillent à partir d'outils technologiques, notamment autour de l'intelligence artificielle, et qui créent des formes de restitution aussi, soit du paysage, soit d'objets très quotidiens que vous allez voir, soit d'objets très science-fictionnels, presque. Donc, vous allez les découvrir au fur et à mesure. On a un premier travail d'un collectif italien, Fuse, Filippo. Aldovini va vous présenter du coup Artificial Botany. Il vous en parle en anglais toujours. Filippo, please.
So, hello everybody. The work you are going to experience is called Artificial Botany. Is the result of our research we've been carried on for a while. We started working with the artificial intelligence since 2019, and with this work specifically we explore the expressive potential of botanical illustrations. When it comes to machine learning algorithms, there is always a very important phase, which is the training phase of this network, and for this work we trained the artificial intelligence with a database of 20,000 illustrations from past centuries. And basically the result, the research that you are going to see is the generative process that this network is attempting in creating something that is basically want to replicate the data that has been trained on. And what we are really interested in for this kind of project is not when the artificial intelligence create something that is realistic or is very similar to what the network has been fed, but we are interested in the beauty of the generative process itself and in the attempt of the network in creating something that is similar to the original data. We love the beauty of the errors, of the glitch, of when the result is getting very surrealistic. And we think there is a kind of similarity within the natural process, the natural generative process. Usually in nature you are used to experience, for example, a flower in its final form, and you miss the generative process, basically, or the blooming process itself. And with this kind of work, we really want to focus on the generation of something. Here, obviously, what you're going to see is something that is artificial, as the titles explain itself. And yeah, it's a piece that we have been designed for people to get lost in and really get into the generative flow. It follows the generative process of the visuals, and we try to create a synesthetic kind of experience in which you basically, when something happens in a certain part of the screen, you hear a sound there.
Donc on continue sur les cabinets de curiosité avec un vrai cabinet de curiosité du 21e siècle avec des objets que vous reconnaîtrez probablement. Une œuvre très physique, très traditionnelle dans une expo dite d'art numérique. Un questionnement plastique du coup intéressant et avec, vous allez voir, un propos autour de l'intelligence artificielle qui répond aussi avec l'œuvre de Fuse et en tout cas une critique ou une problématique en tout cas sur comment les machines peuvent regarder le monde, comment elles l'observent, toujours dans ce fil rouge, ce questionnement de justement les machines qui peuvent préserver, observer le paysage, le conserver, et donc est-ce qu'on a aussi besoin de ces machines-là ou comment ces machines-là regardent le monde et le paysage. C'est une œuvre de Alistair McClymont et John Fass que je vous présente ici et qui, en anglais encore, peuvent vous dire quelques mots sur cette pièce.
Mm-hmm. Ben bon. Bonjour tout le monde, merci d'être venu. Alors je continue en anglais si je peux.
This work is about how machines recognize and classify objects. I'm going to ask you to imagine this as an infinite scale with color as a vertical and form as a horizontal, with the resulting outcome that in the bottom right-hand corner is a lemon. The thing that is most like a lemon is a lemon. And the thing that is most unlike a lemon is in the top left-hand corner.
Yeah, so we're very interested in machine learning, artificial intelligence, this kind of thing. But it's an incredibly difficult thing to understand. It's very easy to make something that makes it even more complicated and hard to understand. So we wanted to sort of understand it and demystify machine learning by us becoming the machine. This is not made with a computer. There were no computers involved in making this. But we do have another piece of work with a website that talks about it and does use machine learning, and we have a QR code there. I'll talk about that in just a second. But this is made by John and I coming to Nantes, making sure we got all of these materials from here. So they're all from Nantes, from the supermarket, from some people donated them here, so some from the gallerists,
Maxi Bazaar.
Maxi Bazaar. things we found on the streets. And as two humans, we try to be the machine and create a system.
Sometimes, in fact, very often, a computer looks at a thing and it may derive the percentage of probability that that thing is a lemon in a way that a human would never do. Because the human visual system is what I would call enculturated. We have cultural understandings that form what we see and our probabilities that a thing is a thing. Complicated sentence, I know. But a computer doesn't have that. It can only create probabilistic matching. And this is what machine learning is doing continually in a cycle or a circle, if you like, of constant predictive matching, but always drawing on the only thing, I don't even want to use the word know, because computers can't know anything in the way that we would understand it, but always drawing on a set of data that has been exposed to. And this is built on a very specific data set.
Yeah. So we wanted to explore this. And so what we did alongside this is, first of all, we talked about ideas we had, and we wrote an essay about our thoughts around this, about the lemon. We chose a lemon for a lot of reasons. It has this relation. It's very simple. It's a simple object. In English, lemon also means a colour. No, you might say this is lemon, as to say it's yellow.
Your lemon bag.
Lemon bag. You know. But also, it's a shape. It's a very simple shape. That's why it's there. That's why we chose a lemon. But also, a lemon appears a lot in, say, 17th century Dutch painting as a symbol of wealth. If you were in Northern Europe, to afford a lemon was incredible. So you have a lemon. So it's this symbol of wealth. It's about colonialism. It has all these other meanings in art and in culture. We wrote an essay about that, which you can find on this website. And then on the website, also, we wanted to play with machine learning. So we made a little thing that could start to explore. And it's a fun thing to explore this with it. But what's interesting is, as a human, I would say, yeah, this is a lemon. This is very like a lemon. You know, it's yellow. This is like a lemon. There's a scale. If you get a machine learning tool and look at that, it says definitely a tentacle, not a lemon. It doesn't see any lemonness in this. Whereas maybe this thing, it might say 0.1% lemon. We don't know why. So the machine gets this very different from a human. So this, but it's really fun. So if you wanted to, you can go to this QR code and you can find this website. And it gives you the percentage of how much it, like this says 0.002% lemon on this thing, according to the machine. But we also wrote a little bit about this, explored, these Dutch paintings, talked about some other things. You should read it if you are interested, I hope.
There's a political point to make here as well, which is that computational intelligence, whatever you want to call it, it often makes this claim to be universal and universalist. And what we want to say is that that's not really the case. All data is local, and information is local, and it comes from somewhere. It's not from nowhere. So we're very consciously using our data from Nantes to try to express this tension between data that a machine is trained with that might come from we don't know where, and the information that we might find in any supermarket that you could walk to 20 minutes from here.
Yeah. So So I think to come back to what we started with, we wanted this to demystify, to be normal, to be relatable. And so it's really important that you recognize these things. They're normal things. Everyone has these things. You know what they are. And then how might we start looking around the world and classify? As humans, we do this. We collect and we classify, and we like to order. So in one sense, it's a very, very simple thing. You might walk around a supermarket and start to order the world in this way. So it's not trying to be strange, weird, elusive, machine thing. It's a very ordinary human thing as well, which I think also interested us.
We can explore the world on our doorstep.
Thanks.
Alors, merci beaucoup.
Merci.
On va aller voir la dernière pièce. Donc voici la toute dernière pièce de l'exposition, Reverse Phylogenesis, d'un trio à qui je vais donner la parole pour présenter la pièce. Golnaz Lerounia et Dominique Pesson, les deux artistes de cette installation qui clôture, donc vous allez voir cette exposition avec un questionnement finalement d'une boucle un peu particulière, donc dans un musée, muséum d'histoire naturelle du 21e siècle.
L'idée était de parler du vivant d'une manière un petit peu différente et de concevoir finalement une sorte de muséum d'histoire naturelle fictif qui nous permette de présenter d'autres formes de vie que celles qu'on connaît actuellement sur Terre. Et donc on a imaginé que, comme certaines méduses sont capables de rajeunir, eh bien, peut-être certaines espèces seraient capables de remonter le temps dans l'arbre phylogénétique et donc de pouvoir explorer des formes de vie qui correspondent au tout début des formes de vie sur Terre. Et au début, en fait, sur la Terre, ce qui s'est passé, c'est que le vivant a exploré plein de manières d'être existant, totalement extravagantes parfois, et pas forcément du tout ni robustes, ni capables finalement de continuer à vivre. Et donc ces formes-là, elles ont été éliminées. Et nous, on s'est dit que ça serait intéressant d'imaginer que le vivant puisse à nouveau se réapproprier toute cette diversité de formes, de manières de respirer, de se reproduire et qui soient pas forcément les plus fonctionnels ni les plus robustes. Voilà, et donc ce concept de reverse phylogenesis, c'est un concept qui nous a permis de vous proposer ici 12 espèces qui sont des espèces vivantes bâties sur les mêmes types de lois que les lois naturelles, mais qui sont autres. Et peut-être, Golnaz, tu peux nous en parler un peu.
Et la question de qu'est-ce que la vie et qu'est-ce que le vivant, ça a été toujours une préoccupation scientifique, enfin, pour les scientifiques, pour les épistémologues, aussi pour les philosophes. Et du coup, dans cette œuvre, on a voulu, quelque part, faire écho à tout ce qui est les logiques et les structures de fonctionnement du vivant et de son évolution. Donc, rester complètement dans une cohérence et dans un référencement avec ce qu'est l'évolution et les connaissances de fonctionnement biologique, et de fabriquer toute une espèce de littérature, graphisme, parcours géologique, quelque part parallèle, un peu altéré, on va dire, fantasmé, tout ça, pour pouvoir présenter presque une sorte de classification autonome. Du coup, qu'est-ce que aussi l'art il peut apporter comme sorte d'observation de la nature et de l'environnement terrestre. Donc on s'est réunis en 2020 pour discuter d'une œuvre, et chacun étant artiste et avec une pratique, avec les questionnements autour de l'environnement, des sciences, de vivant, on a essayé d'imaginer quelque chose qui vraiment permettrait d'ouvrir des portes pour avoir des nouvelles interrogations vers ce miracle terrestre qui est en fait l'émergence de la vie. Et on a fait, pour la production de ça, une fois qu'on s'est écrit le projet, on a dit maintenant il faut voir comment ça peut prendre un corps, et on a travaillé du coup avec Rémi Boulnois qui a fait la création scénographique, qui a écrit cette espèce de, on va dire, muséum de futur, mais qui est un voyage vers le passé, qui fait un voyage vers le passé, avec ces espèces de parcours, etc. Et un habillage sonore qui est fait aussi par l'artiste musicien Florent Colotti, Donc voilà, c'est un petit peu le global de l'œuvre.
Un tout petit point aussi, c'est que comme ces espèces sont revenues dans leur temps phylogénétique, mais sont à notre époque actuelle, finalement, elles intègrent aussi dans leur exploration du vivant la technologie actuelle et peut-être s'en servent ou la détournent. Voilà. Donc il y a un petit peu aussi d'humour qui est décrit. Et chaque installation, ça correspond à une espèce et vous pouvez lire en fait le cartel scientifique, biologique qui lui correspond et qui fait partie de cette fiction finalement de l'œuvre dans son ensemble.
C'est ça. En fait, il y a un cartel zéro qui est au début, qui donne toutes les époques géologiques. Depuis le début des protocellules jusqu'à des aires là où on a des animaux et des entités vivantes complexes, mais vraiment dans les aires géologiques. Et du coup, dans le parcours, vous les retrouvez, donc les références de base de Matrix, c'est là-bas. Et du coup, on a 12 pièces. Puis aussi, l'écho avec les moyens technologiques aussi, c'était du coup, finalement, ces frontières entre le naturel et artificiel, toutes ces questions qu'on se pose aujourd'hui, entre le virtuel, etc. Toutes ces frontières sont un peu mouillées, finalement, où se situe le vivant, qu'est-ce que ça va être le destin de tout ça aussi.
L'augmentation du vivant avec la technologie, etc.
Là, ce qu'on voit, je crois, c'est des... ce qu'il y a dans les fonds marins, je ne suis pas trop sûre. Il parle aussi de ce qu'il y a dans le début de l'humanité, ce qui est arrivé avant l'humanité. Et puis, je crois qu'au début de la pièce, au tout début, il y a des objets qui sont classés en fonction des couleurs. Et c'est des plusieurs produits, je crois, un peu comme entreposés dans une cuisine. Et en fait, c'est de plusieurs couleurs. Il y a des produits verts, des produits bleus, etc. Et là, c'est, je pense que ça explique un petit peu sur les insectes et puis de la préhistoire, tout ce qui est de la préhistoire, des fonds marins et tout. Je crois que c'est ça. Voilà. Je pense que... en fait, j'étais hyper intéressée par ces espèces de pierres. Je ne sais pas comment dire. En fait, je ne sais pas si je trouve ça hyper bien parce que c'est marqué sur la description que c'est arrivé avant la vie. Au début, j'avais l'impression que c'était des pierres normales et en fait, c'est des insectes.
Il y a beaucoup de choses, d'autant plus que l'idée est vraiment extraordinaire parce qu'en fin de compte, c'est une réalité, quelque chose qui appartient à la vie. Parce qu'il y a certains animaux qui régressent jusqu'à la naissance, notamment des méduses qui reviennent. Et donc là, c'est, en même temps, c'est complètement artistique. C'est tout vrai et c'est tout faux. Mais c'est ça qui est, mais ça libère un potentiel d'imagination et de joie aussi de se dire que la vie elle est tellement forte quoi. C'est des aventures entre différentes structures qui se marient, qui se décomposent aussi, qui reviennent inversées, qui reviennent à un stade avant, alors que nous on est habitué à une flèche du temps et de l'évolution. Ça me rend joyeux, ça fait du bien je trouve.
Ouais, c'est joyeux. C'est inventé, mais c'est comme si ça pouvait être vrai.
C'était Ceci n'est pas une pipe, l'émission qui vous parle d'art contemporain. Sur Jet FM 91.2, on vient de découvrir l'exposition Scopitone 2023, festival dédié aux cultures électroniques et aux arts numériques. Cette exposition présente le travail des artistes Alistair MacLimon et John Fass, Anne de Giaferi et Christian Delécluse, David Bowen, Émilie Brout et Maxime Marion, Magali Mobetti, Fuse, Gabriel Lester, Golnaz Berouaznia et Dominique Besson, Luminariste, Paul Duncombe, Sébastien Robert et Stéphanie Roland. Exposition concoctée par Mathieu Vabre, commissaire de l'exposition. J'espère vous avoir donné envie d'aller la voir. L'exposition est à découvrir du 14 au 17 septembre 2023. Elle est ouverte en semaine de 13h à 21h, le samedi de 11h à 21h et le dimanche de 11h à 19h, aux Halles 1 et 2, situées 5 allées Frida Kahlo à Nantes. Cette émission a été réalisée par l'association Already Made, produite par Marine Combe. Chers auditeurs et auditrices, merci pour votre écoute. On vous souhaite une très belle rentrée culturelle et on se retrouve très vite sur les ondes de Jet FM 91.2 pour continuer de regarder avec les oreilles.